Au cœur de la foi, l'humanité, cinquième partie. Pourquoi les humains ? Par Peter Amsterdam. Dans cet article sur l'humanité, nous avons vu que Dieu a créé des êtres uniques sur cette terre, des êtres qui ont été créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons vu que les êtres humains ont beaucoup de similitudes avec Dieu. Ils ont un esprit, ils sont personnels, ils ont un esprit rationnel, le libre arbitre et la créativité. Dieu nous a intimement insufflé la vie. Les humains ont été créés un peu inférieurs aux anges et ont reçu la domination sur la terre. Nous sommes certainement une création spéciale, comme en témoigne non seulement le fait que Dieu nous a créés de façon unique, mais aussi le fait qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, afin que nous puissions nous réconcilier avec lui et vivre avec lui pour toujours. Quand on pense au fait que les humains ont été créés à l'image de Dieu, on peut comprendre l'admiration du roi David lorsqu'il dit « Je te loue, car je suis fait avec crainte et merveilleusement. Merveilleuses sont tes œuvres, mon âme le sait très bien. » Psaume 139, 14. Comme nous sommes des êtres rationnels, une question qui se pose naturellement dans l'esprit de l'homme est « Pourquoi Dieu a-t-il fait de tels êtres uniques comme les humains ? Pourquoi avons-nous été créés ? Et quel est notre but ? Les Écritures ne disent pas grand-chose sur les raisons pour lesquelles Dieu a créé les humains, mais ce qu'elles disent est aussi simple que profond. Il est dit que Dieu a créé l'humanité pour sa gloire. Glorifier Dieu. Tous ceux qui sont appelés par mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et faits. Ésaïe 43, 7. Cette simple déclaration nous dit que nos vies sont destinés à glorifier Dieu. Le catéchisme de Westminster l'explique ainsi. Question : quel est le but principal de l'homme ? Réponse : le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. J.I. Packer offre le commentaire suivant sur la citation précédente. Nous devons reconnaître qu'il est au cœur des choses et que nous existons pour sa gloire, c'est-à-dire que nous existons pour lui, pas pour nous. Et ce n'est que lorsque nous nous mettrons à le glorifier comme celui qui compte le plus que nous entrerons dans la joie et l'accomplissement qu'apporte le fait d'être chrétien. Dans son catéchisme de l'église de Genève, Jean Calvin a écrit « Le Maître, quelle est la fin principale de la vie humaine ? Étudiant, connaître Dieu par qui les hommes ont été créés. Maître, pour quelle raison dites-vous cela ? Étudiant, parce qu'il nous a créés et nous a placés dans ce monde pour être glorifiés en nous. Il est en effet juste que notre vie, dont lui-même est le commencement, soit consacrée à sa gloire. » En se référant à la création finale de l'humanité par Dieu, Dietrich Bonhoeffer exprime le but de cet acte créateur. L'humanité est ici l'œuvre finale de l'autoglorification de Dieu. Le monde est créé pour Dieu, pour l'honneur de Dieu seul. Et l'humanité est le réceptacle le plus précieux, le miroir même du Créateur. C'est totalement pour la gloire et l'honneur de Dieu en tant que Créateur que tout s'accomplit. Que signifie glorifier Dieu ? Pour commencer, il y a deux façons générales d'utiliser le mot « gloire » dans la Bible. L'une concerne la gloire intrinsèque de Dieu, qui est la lumière brillante qui entoure sa présence lorsqu'il se manifeste dans sa création. Ceci est utilisé comme une expression extérieure de son excellence. J. Rodman Williams l'a exprimé ainsi. Qu'est-ce donc que la gloire de Dieu ? La meilleure réponse est peut-être que la gloire divine est la splendeur rayonnante et la majesté impressionnante de Dieu lui-même. L'effulgence de la lumière rayonnante, de la splendeur et de la majesté qui transparaît dans chaque aspect de l'être et de l'action de Dieu. Quant à l'être de Dieu, la gloire de Dieu est comme une auréole, aura ou atmosphère de splendeur émanant de lui et l'entourant. Cette lumière est exprimée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es revêtu de splendeur et de majesté. Tu te couvres de lumière comme d'un vêtement. Tu étends les cieux comme une tente. Psaume 104, 1 et 2. Le soleil ne sera plus ta lumière le jour, et la lune ne te donnera plus de lumière pour la clarté, mais l'Éternel sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus, car le Seigneur sera ta lumière éternelle. Ésaïe 60, 19 et 20. Les chérubins levèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre devant mes yeux quand ils sortirent, les roues à côté d'eux. Ils se tinrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. Ézéchiel 10, 19. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur brilla autour d'eux, et ils furent remplis de crainte. Luc 2, 9. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les conduisit seuls sur une haute montagne, et il fut transformé devant eux, et son visage brilla comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, 1 à 2. La vie n'a pas besoin du soleil ou de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu lui donne la lumière, et sa lampe est l'agneau. Apocalypse 21, 23. Cette lumière de la gloire de Dieu est la gloire qui appartient à Dieu seul. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, 11. Le double sens de la gloire. Les principaux mots hébreux traduits comme gloire dans l'Ancien Testament signifient honneur, abondance, dignité, valeur, révérence, éclat, lumière, majesté, splendeur et beauté. Dans le Nouveau Testament, le mot principal traduit par gloire en référence à Dieu est doxa, qui signifie splendeur, éclat, magnificence, excellence, prééminence, dignité, majesté, une chose appartenant à Dieu, la majesté royale qui lui appartient en tant que souverain suprême, majesté dans le sens de la perfection absolue de la divinité, la perfection intérieure absolue ou excellence personnelle du Christ, une condition des plus glorieuses, un état très élevé. Ces thèmes et significations ci-dessus sont les mots que l'Écriture utilise pour décrire la merveille de la gloire de Dieu. La deuxième façon générale d'utiliser le mot « gloire » signifie l'honneur ou l'excellente réputation. Lorsqu'elle est utilisée de cette façon, il ne s'agit pas de parler de la gloire intrinsèque de Dieu, mais plutôt de décrire l'honneur qui devrait être donné à Dieu. C'est dans ce sens que la gloire est utilisée lorsque l'on parle des humains créés pour glorifier Dieu. La parole dit que quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Elle nous enseigne aussi à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Ainsi que vous mangiez ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont ceux de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. L'essence humaine se compose de l'immatériel et du matériel, qui forment ensemble la personne complète. Quand l'Écriture nous dit que nous devons glorifier Dieu dans le corps et dans l'esprit, cela peut être considéré comme un guide pour le glorifier de tout notre être, intérieur et extérieur, physiquement et spirituellement, dans tout ce que nous faisons et sommes. Cela signifie que les actions de notre vie, nos interactions avec les autres, ainsi que tous les aspects de notre vie intérieure ou spirituelle et de notre moi, doivent le glorifier. Quels sont les moyens d'y parvenir? Glorifier Dieu dans notre vie intérieure. Dans notre vie intérieure, nous pouvons être profondément conscients de Dieu et de tout ce qu'il est et a fait. Nous pouvons nous rappeler ses attributs, sa puissance et son amour. Nous pouvons admirer son incroyable création, sa beauté et sa magnificence. Nous pouvons profondément apprécier la bonté qu'il a montrée à tous les gens et reconnaître qu'il aime chaque personne. Nous pouvons être dans l'admiration de la grâce et de la miséricorde qu'il nous a accordée par le salut. Nous pouvons nous réjouir d'avoir été adoptés dans sa famille par la souffrance et la mort de Jésus sur la croix. Nous pouvons nous sentir profondément humbles devant le fait que le Saint-Esprit habite en nous. Nous pouvons comprendre qu'il est personnel et qu'il nous a créés pour que nous soyons aussi personnels et ainsi capables d'avoir une relation avec lui. Nous pouvons constamment entretenir et renforcer cette relation. Nous pouvons l'aimer, exprimer notre gratitude, communiquer avec lui dans la prière et l'écouter à travers les différentes manières dont il communique avec nous. Nous pouvons le louer. Les mots hébreux et grecs traduits par louange, par leur définition, nous disent essentiellement de donner à Dieu la louange qui est exigée par ses qualités, ses actes et ses attributs. Bénir, adorer, rendre grâce, appréciation et éloge. Nous pouvons régulièrement exprimer notre admiration, notre gratitude et notre amour, notre appréciation lorsque nous nous présentons devant lui dans l'humilité, réalisant combien il est un Dieu impressionnant, merveilleux et aimant. Nous pouvons nous rendre compte que Dieu nous a parlé de lui par sa parole, qu'il est Père, Fils et Esprit Saint. Il nous a dit comment il est, ce qu'il a fait, comment se réconcilier avec lui, comment le recevoir, comment avoir son esprit en nous. Par sa parole, il nous a montré comment le connaître et l'aimer, comment lui faire confiance, comment lui plaire. Il a exprimé son amour, sa fidélité, son soin pour nous. Nous pouvons donc le connaître, l'aimer, compter sur lui, croire en sa parole et y obéir avec confiance. Dans notre vie intérieure, dans notre esprit, nous pouvons glorifier Dieu en nous rappelant toujours qu'il est Dieu et ce que cela signifie, qu'il est l'être suprême qui nous a fait, qui sait tout sur nous et sur tout, et qui, aussi majestueux soit-il, nous aime et veut avoir une relation personnelle avec nous. Quand on a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important, ou en d'autres termes, quelle est la chose la plus importante que les humains sont censés faire dans leur vie, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Marc 12, 30. Nous devons aimer Dieu et aussi le glorifier de l'intérieur de notre être intérieur, avec notre âme, esprit et avec notre esprit rationnel et avec tout ce qui est en nous. Comme l'a dit Matthieu Henry, commentateur de la Bible, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, le considérer comme le meilleur des êtres, en lui-même très aimable et infiniment parfait et excellent, comme celui à qui nous avons les plus grandes obligations, tant dans la gratitude que dans l'intérêt. J.I. Packer, en se référant au fait que nous rendons gloire à notre Dieu, dit « Le va-et-vient de voir la gloire en Dieu et de rendre gloire à Dieu est le véritable accomplissement du cœur de la nature humaine. Il apporte la joie suprême à l'homme, comme à Dieu. » Sophonie 3, 14 à 17. Glorifier Dieu dans nos actions. Dans notre vie extérieure, nous pouvons glorifier Dieu dans nos actions. Nous le glorifions quand nous suivons ce que sa parole nous dit de faire, quand nous vivons en accord avec elle et mettons les principes bibliques en action quotidienne. Parce que nous sommes des êtres personnels qui ont une relation avec Dieu, nous pouvons aussi le suivre en cherchant sa direction dans la prière et en faisant les choses qu'il nous montre. Chacun d'entre nous est différent et le Seigneur peut donner une direction qui est spécifique à notre vie. Nous l'honorons quand nous lui demandons de nous guider et quand nous suivons ses directives par la foi. Nous apportons la gloire à Dieu lorsque nous vivons notre vie d'une manière qui reflète l'amour de Dieu et les principes de sa parole. Sa parole nous instruit de faire briller nos lumières devant les autres afin qu'ils puissent voir ce que nous faisons et comment nous vivons, ressentir l'amour de Dieu et le glorifier à cause de cela. Nos interactions pieuses avec les autres, notre vie en accord avec les instructions et les principes de sa parole, sont vus par les autres et peuvent les affecter de manière positive. Nous glorifions aussi le Seigneur devant les autres quand nous témoignons, quand nous racontons notre témoignage personnel, quand nous parlons de la façon dont il a travaillé dans nos vies et nos cœurs, quand nous distribuons de la littérature ou enseignons ou informons les gens sur Dieu et son amour pour eux par tous les moyens. Nous le glorifions quand nous aidons ceux qui sont dans le besoin, les veuves et les orphelins, les nécessiteux, les pauvres, quand nous donnons de nous-mêmes d'une manière qui reflète l'amour de Dieu et son souci pour les autres. Quand nous prions et lui demandons de l'aide pour nous-mêmes ou pour les autres, quand nous revendiquons ses promesses et que nous nous y tenons, quand nous cherchons sa direction, nous lui donnons gloire, nous reconnaissons notre foi en sa sollicitude et son souci pour nous, en la vérité de sa parole et en la fiabilité de ses promesses. Nous reconnaissons notre besoin et déclarons par nos prières que nous avons confiance qu'il les entendra et y répondra. Quand nous lui confessons nos péchés, nous l'honorons en reconnaissant que nous avons fait le mal et que nous avons besoin de son pardon. Nous glorifions Dieu quand nous aimons nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Quand nous faisons aux autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. quand nous aimons en acte et en vérité. Et quand nous aimons, obéissons et révérons Dieu et faisons ce qu'il dit, car ceci est le devoir entier des hommes. Toutes les activités de la vie aussi doivent être poursuivies dans le but de donner à Dieu hommage, honneur et plaisir, ce qui le glorifie sur le plan pratique. 1 Corinthiens 10, 31. Quand nous comprenons que Dieu nous a créés pour le glorifier, cela devrait nous aider à faire de notre mieux pour vivre d'une manière qui lui apporte gloire. Vivre une vie qui glorifie Dieu, cependant, n'est pas une voie sans unique, avec tous les bénéfices qui vont à lui. Il y a des bénédictions reçues dans cette vie et dans la vie à venir pour ceux qui vivent pour le glorifier. Tu me fais connaître le chemin de la vie. En ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite sont les plaisirs éternels. Psaume 16, 11. Celui qui regarde la loi parfaite, la loi de la liberté et persévère, n'étant pas quelqu'un qui entend et qui oublie, mais quelqu'un qui agit, il sera béni dans son action. Jacques 1, 25. Béni soit celui qui craint le Seigneur, qui marche dans ses voies. Tu mangeras le fruit du travail de tes mains. Tu seras béni et tu seras heureux. Psaume 128, 1 et 2. Ton Père qui voit en secret te récompensera. Matthieu 6, 6. Je, Jésus, suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Béni et saint est celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 6. En tant que chrétiens qui comprenons que le Seigneur désire que nous vivions des vies qui le glorifient, qui seront bénies par lui et béniront les autres, nous avons l'opportunité d'accomplir le but de notre Créateur dans cette vie et de vivre avec lui pour toujours dans la joie et le bonheur, étant toujours capable de lui donner la gloire qu'il mérite. Toi, notre Seigneur et Dieu, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses et par ta volonté, elles ont existé et ont été créées. Apocalypse 4, 11.